Morning Weekend. La double page info du week-end, Fabrice Lundy sur BFM Radio.
Good morning week-end, l'actualité politique, économique et sociale de la semaine, toujours avec nos complices que vous adorez. Hein. François Langlais, bonjour.
Bonjour Fabrice, bonjour à tous.
François Langlais qui est rédacteur en chef à la Tribune. Olivier Lecomte, bonjour.
Bonjour Fabrice, bonjour à tous.
Professeur de finance à Centrale Paris, Jérôme Fourquet, bonjour.
Bonjour.
Le sondeur, directeur adjoint du département opinion publique de l'IFOP. Alors, on va revenir évidemment, bien sûr, les propos tenus par François Fillon ce vendredi matin. Les retraites, les manifestations, c'était jeudi, le G20, et évidemment, tiens, qui va reprendre aussi le quotidien Le Monde. Et puis, voilà, alors évidemment, la grosse affaire, le gros dossier qui nous a occupés, même les non-fans de foot s'y sont intéressés, passionnés même, les Bleus, éliminés dans les pires conditions, on a tout entendu, fiasco, scandale, honte, images déplorables. Tout était réuni et chaque jour nous a apporté son lot de stupeur, de colère, d'écœurement, bagarres, grèves, insultes, mépris. Et encore, je pense qu'on ne sait pas tout. Une équipe nulle, des joueurs surpayés, un but d'eux-mêmes, un management déplorable, un entraîneur dédaigneux, Domenech.
J'ai compris ce que vous avez vécu, j'ai compris ce qui s'est passé. Ça a été dur pour tout le monde, c'était dur et ça va être dur encore, parce qu'il va falloir assumer maintenant.
Voilà, même le retour des Bleus a été raté, le Bourget, jet privé, les supporters, on en a eu encore pour leurs frais. Alors, on est au-delà du sport, phénomène de société, phénomène politique, oui, au plus haut niveau de l'État, le gouvernement. Roselyne Bachelot, par exemple, dépêchée sur place, qui a dans un premier temps joué bien les bonnes mamans, les nounous à la veille du match contre l'Afrique du Sud.
Je crois que j'ai vu des larmes dans les yeux de beaucoup, et je leur ai dit, donnez tout.
Oui, alors ça, c'est la Roselyne Bachelot un petit peu gentille, parce que quand elle est revenue à Paris, elle est devenue plutôt directrice d'école, procureure même, devant les députés.
Le désastre, avec une équipe de France où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés, un coach désemparé et sans autorité, une fédération française de football aux abois.
Voilà, sévère Roselyne Bachelot, sévère mais juste, comme on pourrait dire. Alors affaire d'État, puisque Nicolas Sarkozy, vous en souvenez, Nicolas Sarkozy, c'était le week-end dernier en plein sommet économique à Saint-Pétersbourg devant Dmitri Medvedev qui avait condamné les insultes de Nicolas Anelka. Le président de la République qui a même bouleversé son agenda cette semaine pour suivre le football, pour convoquer une réunion de travail, annoncer des états généraux du football et puis recevoir Thierry Henry, un gréviste dans son genre. Le jour de la manifestation des retraites, il l'a reçu en catimini une fois que les Bleus ont posé le pied en France. Commentaire général, François Langlais, est-ce qu'on n'est pas un petit peu, surpris, étonné, les bras nous en tombent.
C'est une pantalonnade. Mais alors, si vous voulez, au-delà de cela, ce qui est intéressant, c'est de voir l'écho que ça a suscité. Évidemment, tout le monde est marri de voir la déconfiture de l'équipe nationale dans une compétition mondiale. Mais au-delà de ça, ça correspond vraiment à l'état de la France du moment. C'est-à-dire que cette équipe de France a été la caricature de la France, avec une impossibilité à changer, justement un désastre qu'on pressentait et on n'a pas pu arrêter le train, des interventions politiques incessantes et contradictoires et ridicules, vous avez passé quelques extraits spectaculaires, et puis si vous voulez, une élite, je dirais, inconséquente, indigente, surpayée, vous l'avez dit aussi, qui ne joue pas son rôle. Et c'est la colère des Français, elle s'exprime contre cela, si vous voulez. Et à travers la critique qui frappe l'équipe de France, c'est une critique beaucoup plus large qui frappe les élites françaises à un moment où le ministre des Retraites est pris dans d'inextricables conflit d'intérêts, où un ministre fait partir en fumée, si je puis dire en fumée de cigare, les fonds de la République, où un autre loge sa famille dans un appartement de fonction. Voilà, on pourrait égrener comme ça toutes les affaires.
Christian Blanc, voilà. Boutin, Joyandet, Amara, Monsieur Hortefeux qui est ministre de la Police quand même, qui écope d'une sanction pénale, même s'il a fait appel, il est toujours présumé innocent, mais voilà, il y a eu par le passé des jurisprudences qui faisaient que même quand on était mis en examen, on pouvait démissionner. Voilà. Donc, allez, Jérôme Fourquet, colère contre les élites. Vous, l'homme de l'opinion,
effectivement, c'est ce climat-là aujourd'hui qui prévaut. On n'aura pas forcément un impact direct sur la cote de popularité du président, mais ça peut avoir des effets délétères sur le moral des Français. Dans toutes les enquêtes internationales, on voit que c'est en France que le pessimisme est le plus important. Et du coup, une difficulté pour nos élites politiques ou autres à entraîner le pays au moment où on va demander des efforts, à qui 2 ans de plus pour combler le déficit des retraites, qui prélèvements supplémentaires à la rentrée qui semblent se dessiner par petites touches. Et face à cela, on a la petite musique qui dit que en haut, les élites se servent plutôt qu'elles ne servent. Et là, c'est franchement quelque chose qui est assez problématique et assez inquiétant.
Olivier Lecomte, professeur de finance à Centrale.
Eh bien, je crois que malheureusement, il y a une grande ressemblance à certains égards entre l'équipe de France et l'équipe qui dirige la France. À l'évidence, les mots de Roselyne Bachelot, quand elle parle de caïd immature, ça peut peut-être s'appliquer à quelqu'un qui, par exemple, à une interpellation, dans une manifestation, répond, descend, on va s'expliquer.
Voilà, alors ça, on a compris. Nicolas Sarkozy, avec les pêcheurs du Guilvinec, il avait récidivé quelques mois plus tard au sein de l'agriculture, casse-toi pour fond.
Exactement. Mmh. Or là, justement, on montre finalement, c'est très symbolique, on est encore, malheureusement, aussi sophistiqué que puisse être nos sociétés, nous sommes encore, dominés par certaines de nos pulsions, et toute la civilisation, c'est apprendre à les maîtriser. Or là, on a, depuis le coup de boule de Zidane en finale d'une coupe il y a quelques années, 2006, en passant par ses invectives.
Face aux Italiens qui ont été eux-mêmes sortis cette semaine.
Absolument. Donc, à chaque fois, finalement, on montre quoi? On montre que face à une situation de conflit, face à une situation de tension, on répond par, comme l'homme des cavernes, avec un coup de massue. Tout ce qui consiste justement à essayer d'élaborer. Je veux dire, monsieur Sarkozy est accueilli par ce visiteur au salon de l'agriculture qui lui dit « ne me touche pas, tu vas me salir ». Il aurait pu lui répondre, écoutez, monsieur, moi je respecte mes opposants.
Ça, c'était une autre fois quand il a dit, je vous serre pas la main, parce que vous allez me salir.
Non, touche-moi pas, tu vas me salir. Ouais. Et Sarkozy lui dit, casse-toi, pauvre con. Ouais. Mais ça, c'est la réaction primaire, c'est l'homme des cavernes. Quelqu'un de civilisé aurait pu répondre, écoutez, moi je respecte mes opposants, respectez-moi. Par exemple, il y avait plein d'autres possibilités. La civilisation, ça consiste justement à avoir des alternatives, avoir une maîtrise de soi-même et avoir des alternatives au comportement primitif. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand on est dans un comportement primitif, quand on surréagit, quand on réagit émotionnellement aux événements, on a effectivement une conduite totalement immature. Et c'est très grave parce que ça conduit justement à ce qu'on a vu avec l'équipe de France.
Et vous nous dites, est-ce que vous allez jusqu'à dire qui se ressemble, ça semble? C'est pour ça que Nicolas Sarkozy reçoit Thierry Henry, non?
Je dis qu'on est, finalement dans une même symbolique. Et je vais juste ajouter un petit mot. Symbolique de l'enfant, symbolique enfantine, qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans cette espèce de volonté d'omnipotence, de démonstration d'omnipotence de Nicolas Sarkozy. C'est, messieurs, dames, vous allez voir, moi, je peux tout régler. Ce qui est un fantasme complet et qui n'est évidemment pas la solution. On règle les choses par le dialogue et aussi par l'élaboration de solutions autrement que dans l'invective.
Il va tout régler avec des états généraux du football au mois d'octobre, hein, François Langlais.
Oui, je voulais poursuivre le parallèle fait à l'instant par Olivier entre équipe de France et équipe qui dirige la France. Je partage tout à fait ce qu'il dit sur les modalités du gouvernement et disons de l'expression politique. Mais il y a un autre parallèle intéressant à faire dans ce domaine. Vous remarquerez que l'équipe de France a été battue par des pays émergents. Par la Chine, l'équipe de réserve, par le Mexique, par l'Afrique du Sud. Et ce que les Français reprochent à l'équipe qui les dirige politiquement, c'est aussi cette défaite-là. C'est-à-dire qu'on ne formule pas très clairement le plan de vol du pays pour défendre ses couleurs dans la mondialisation, si vous voulez. Et que, de ce point de vue-là, il y a une inquiétude qui s'exprime aussi dans la critique qu'on a faite vis-à-vis de l'équipe de France, qui elle-même a subi les assauts du monde émergent de façon très spectaculaire. Je note d'ailleurs que c'est très singulier. Quand on avait fait le premier commentaire dans cette émission sur la Coupe du Monde, j'avais dit, bah oui, c'est une géographie assez particulière, puisque le football, c'est l'Europe et les pays émergents. C'est faux cette année. Hein. L'Europe, déconfiture pour l'Italie qui a été éliminée cette semaine, déconfiture pour la France qui l'a été, difficulté pour l'Allemagne, et en revanche, les États-Unis et même le Japon, qui a fait un match extraordinaire, se sont propulsés sur la scène internationale, donc qui commence à ressembler un peu davantage à celle de l'économie.
Jérôme Fourquet, l'IFOP.
Il y a un autre élément intéressant, je pense un parallèle, c'est que cette crise aussi a été en partie médiatique, voire même complètement, puisque d'heure en heure sur les chaînes, on va pas donner de nom,
mais le week-end
sur
dernier, les chaînes d'information, moi, je suis resté le devant les chaînes de télévision.
Les intervenants, les acteurs étaient toujours à la remorque, à la traîne, et donc se faisaient imposer quelque part leur réponse face à cette dynamique médiatique. J'ai l'impression aussi qu'au niveau parfois gouvernemental, notamment avec les affaires là qui succèdent, on a un peu cette idée de cafouillage, d'improvisation. Alors si on fait la métaphore footballistique, un peu comme une équipe qui cherche son jeu, hein, c'est-à-dire qui subit, hein, subit le jeu de l'adversaire. Alors si tant est que les médias en soient, mais c'est, je pense que c'est assez frappant.
Olivier Lecomte.
Oui, mais enfin, dans tous les cas, on est face finalement à une perte de sang-froid. Alors que face à une situation complexe, face à une situation de tension, face à une situation menaçante, justement, on sait bien que le seul moyen de s'en sortir, c'est de rester calme et de réfléchir et travailler ensemble. Et là, on a de part et d'autre, hein, je veux dire, au gouvernement en équipe de France, la démonstration inverse. Et puis avec, en plus, un manque total de décence. Vous avez évoqué tout à l'heure l'affaire des cigares. Moi, ce qui me sidérait, c'est la réaction de Christian Blanc. C'est comme un enfant qui est pris en faute, qui dit non, mais c'est pas vrai.
C'est mon directeur de cabinet.
C'est mon directeur de cabinet. Ensuite, finalement, contraint, je rembourse une première fois 3 500 €. Puis après, je rajoute 1 000 €. Enfin, jusqu'à ce que Fillon, donc le maître d'école, effectivement, sort et disant, allez, maintenant, ce sera...
Bon, bah vous savez quoi, on va y revenir dans un instant, on verra quelles peuvent être les conséquences politiques, finalement, au-delà de l'équipe de France, de toutes ces affaires, est-ce qu'il y a une montée du populisme? N'hésitez pas, continuez, bfmradio.fr, voilà, vous cliquez sur la fenêtre de Good Morning Weekend, vos commentaires, vos questions. On a eu encore pas mal de mails la semaine dernière, et puis des mails d'encouragement, voilà, très sympathique, hein, n'est-ce pas, mon cher François Langlais? François Langlais qu'on va retrouver dans un instant avec Olivier Lecomte, avec Jérôme Fourquet. Bonne matinée sur BFM Radio.
Les BFM Awards, en tournée dans toute la France, récompensent les hommes et les entreprises qui font la richesse de nos régions. Le 5 juillet, les BFM Awards seront à Lyon pour décerner les prix de la région Rhône-Alpes. Saga familiale, Grand Prix, Entrepreneur de l'année, Prix spécial BFM. La tournée des BFM Awards 2010, lundi 5 juillet à Lyon et bientôt dans votre région.
Les BFM Awards Région 2010 avec BNP Paribas. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change.
Troquer une chaise longue contre un fauteuil roulant, certains ne peuvent qu'en rêver. Pour des rencontres inoubliables, devenez bénévole le temps d'un été. Le service vacances de l'Association des paralysés de France recherche des accompagnateurs bénévoles pour ces séjours. Vous avez 18 ans ou plus, une bonne résistance physique et envie de partager des moments forts? Alors rejoignez-nous. Partez en vacances avec des personnes handicapées motrices. Contactez APF Évasion au 01 40 78 00 00 ou sur www.apf.asso.fr.
Et si cette semaine, je vous offrais des moments exclusifs? D'abord, je testerai pour vous le très attendu iPhone 4. Enfin, je vous ferai découvrir la toute dernière version de Windows Live Messenger.
Attirant et tellement pratique. Microhebdo, c'est un contenu clair. Design, avec toujours plus d'actu, de tests et d'astuces pour 1,95€. Microhebdo, simplifiez-vous la vie.
FM Radio, Good Morning Weekend, Fabrice Lundy.
Voilà, c'est toujours Good Morning Weekend avec la petite équipe bien sympathique. François Langlais, rédacteur en chef de la Tribune. Jérôme Fourquet, directeur adjoint du département opinion publique de l'IFOP. Et puis Olivier Lecomte, professeur de finance à l'École centrale de Paris. Alors, les suites du fiasco des Bleus et puis donc au confins de la politique, hein, toutes ces affaires d'exemplarité, c'est vrai François Langlais, vous nous disiez il y a un instant, voilà, l'équipe de France est une caricature de la France du moment finalement, bah là elle reflète bien la France du moment. Il y a une colère des Français contre leurs élites, alors élites footballistiques, hein, on a vu comment ils se sont comportés en Afrique du Sud, et puis les élites politiques, hein, voilà, on va rappeler les affaires Christian Blanc, Boutin, Joyandet, Amara, etc. Nicolas Sarkozy et François Fillon qui promettent de nouvelles décisions sur l'exemplarité des politiques. Il y a aussi l'affaire Bettencourt d'ailleurs, où le nom, vous savez, d'Éric Woerth est cité d'ailleurs, l'intéressé qui n'a cessé toute la semaine de se défendre, notamment à l'Assemblée nationale.
C'est immonde et c'est ignoble. Jamais mon épouse ou moi n'avons été mêlés de près ou de loin au procès qui oppose les membres de la famille Bettencourt. Oui, la femme d'un ministre peut exercer son métier. Il n'y a pas de conflit d'intérêts parce que tout simplement, ni mon épouse ni moi n'avons d'intérêt et je l'assume. Dans un discours important, le président Mitterrand parlait des chiens. Monsieur le député, faites attention à ne pas en devenir un.
Voilà, vous vous en souvenez de ce discours de François Mitterrand, c'était aux obsèques de Pierre Bérégovoy, donc c'était en mai 93 de mémoire. François Mitterrand extrêmement ému ce jour-là, il y a l'impression qu'aussi qu'Éric Woerth l'était à l'Assemblée nationale cette semaine pour répondre aux députés de l'opposition. Toutes ces affaires, tiens, Jérôme Fourquet, vous l'homme de l'opinion à la tête du département opinion publique de l'IFOP, Est-ce que c'est de nature, eh bien, à se traduire d'une certaine façon dans les urnes? Voilà, cette crise des élites, ce manque d'exemplarité.
Effectivement, on en voit déjà la trace depuis un certain nombre d'années avec une abstention qui est importante, hein, parce que la meilleure façon de signifier aux politiques qu'on ne les suit pas, qu'on leur apporte peu de crédit, c'est ne pas voter, tout simplement. Là, il est encore un petit peu tôt pour se prononcer, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a une multiplication d'affaires et que le climat, que ce soit le fiasco des Bleus ou toutes ces affaires, tente à s'alourdir. J'ajouterais que Marine Le Pen, aujourd'hui, se situe à un niveau élevé dans les intentions de vote, hein, 13% à 2 ans de l'échéance présidentielle quand son père était à 8 ou 9, donc ça ne veut pas dire obligatoirement qu'elle fera 4 ou 5 points de mieux que son père, mais c'est la première qui avait rompu un peu le consensus ambiant avant même le début de la Coupe du Monde, en disant qu'elle ne se reconnaissait pas dans cette équipe parce que il ne chantait pas la Marseillaise et parce qu'il se comportait comme des enfants gâtés, pourris par l'argent. Hein, et donc, elle avait senti le coup avant le désastre. Et donc, je pense que, là encore, de manière assez habile, hein, contrairement à son père, quand elle critique les copains et les coquins, selon la formule consacrée, elle renvoie à l'exemple du général de Gaulle qui payait ses factures d'EDF, hein, ce que son père n'aurait pas fait. Donc, critique, entre guillemets, extrêmement républicaine, mais qui peut avoir des effets dramatiques ou ravageurs dans l'électorat.
Oui, anecdote d'ailleurs que rappelait, c'était il y a une semaine pile, hein, François Langlais, à l'occasion des commémorations du 18 juin 1940, hein, l'appel du 18 juin, François Langlais, à vous.
Absolument, c'est vrai que la concomitance de deux choses est absolument terrible. C'est que d'un côté, on exhorte tout le monde à la rigueur, hein, en expliquant qu'il faut serrer la ceinture, qu'il faut faire des économies, diminuer les dépenses de l'État, et puis, de l'autre côté, des ministres, ou des officiels en tout cas, qui donnent le sentiment que précisément ils ne se l'appliquent pas. On comprend pourquoi ils avaient autant de difficultés à prononcer le mot « rigueur ». C'est précisément, c'est au moins ce qu'on peut se dire, parce qu'ils avaient du mal à l'intégrer dans la conduite de leurs propres affaires. C'est ce que se disent les Français. Et ça, c'est un cocktail explosif, pour faire le lien avec ce que dit Jérôme. C'est typique des comportements sociaux de période de crise. Les années 30, c'était ça aussi. Progressivement, sur fond de crise, précisément difficile à régler au plan économique, au moment où le corps social était lassé de la progression du chômage, était lassé de justement la faiblesse de la croissance, eh bien, naturellement, il se tourne vers ses gouvernants en disant « Qu'avez-vous fait ?» Et c'est à ce moment-là où les solutions extrêmes, qui sont souvent justement assez en phase avec le corps social, prennent un ascendant important. Nul doute que, vous vous souvenez, il y a 2 ou 3 ans, ou peut-être même quelques mois, quand Jean-Marie Le Pen a pris sa retraite, on a dit « C'est la fin du Front National, parce que c'était l'homme clé ». C'était probablement un peu rapide, hein, que ceux qui ont dit ça n'imaginaient pas que, justement, avec l'approfondissement de la crise, peut-être, une période relativement favorable s'ouvre-t-elle pour le Front National, avec effectivement une héritière, Marine Le Pen, qui évite les provocations de son père,
pas toutes les casseroles,
qui de surcroît a une intuition politique assez fine, hein, et c'est vrai que ce que disait Jérôme à propos de l'équipe de France est tout à fait étonnant.
Olivier Lecomte.
Oui, et d'ailleurs ce qui est terrible et qui va justement alimenter les votes contestataires, d'ailleurs qu'ils soient de gauche ou de droite, hein, d'extrême gauche ou d'extrême droite, c'est que une fois de plus, on répond à une symbolique par une autre symbolique plutôt que par des actes. Je veux dire par là que face à toutes ces affaires qui quand même interpellent énormément les gens sur les éventuelles compromissions entre le pouvoir, enfin vrai, des comportements qui effectivement sont jugés, je pense, de façon extrêmement négative par la population française à qui on demande en ce moment des efforts, plutôt que de résoudre le sujet, de le traiter, c'est-à-dire ceux qui ont été déviants sont virés, si Monsieur Hortefeux est condamné, certes, effectivement, il a droit à un appel, mais enfin, en attendant, Non, là, on compense par une autre symbolique, c'est-à-dire, on va exalter le général de Gaulle et sa grandeur, bon, on va supprimer la garden party de l'Élysée du 14 juillet, bon, ça, tout hein. Ça, donc, mais ça ne convainc personne, évidemment, attendez, mais personne n'est dupe.
Jérôme Fourquet.
Et autre élément, pour faire passer cette rigueur, on a coutume aujourd'hui de regarder ce qui se passe dans les pays étrangers, en disant, regardez, l'âge de départ à la retraite, en Allemagne, c'est tant. En France, on est loin derrière. Les prélèvements, c'est tant, etc., etc. Aujourd'hui, beaucoup de pays européens industrialisés qui ont lancé des plans de rigueur les ont accompagnés de diminutions de salaire pour les plus hauts fonctionnaires et pour les ministres. Et donc, tout se passe comme si on avait convocation des exemples européens ou internationaux pour faire passer la rigueur, mais sur d'autres types de pratiques, cela ne serait pas, ce ne serait pas d'usage.
Alors Olivier Lecomte faisait allusion donc à cette garden party de l'Élysée. Là aussi, bien rendez-vous des élites, même si bien elle était ouverte quand même régulièrement à des enfants, à des jeunes, à des personnalités méritantes. N'empêche, bon, c'était quand même le grand rendez-vous du microcosme. Hein, voilà, on venait feuilloter, c'était un numéro de cours, voilà, tout simplement à l'Élysée. C'était une lancée inaugurée par Valéry Giscard d'Estaing, suivi par Mitterrand, Chirac et donc Sarkozy. Bon, qui supprime donc cette garden party. Donc du 14 juillet, on serre les budgets, voilà, des mesures de restriction budgétaire parce que tout ça coûte cher, 700 000 euros. Bon, on est loin quand même des 100 milliards à trouver d'ici 3 ans quand même. François Langlais, quel regard vous y portez ce matin ?
Ce sont des vétilles, je pense que Olivier l'a bien dit. C'est vraiment destiné à tenter d'aveugler la population. Hein. Et évidemment, faut dire que cette cérémonie, elle a été un peu dénaturée. À l'origine, hein, telle que vous l'avez décrite justement, lorsque Valéry Giscard d'Estaing l'a mise en œuvre, puisque ça n'existait pas auparavant, il s'agissait de faire venir des Français méritants, un titre ou un autre, tel Français qui avait fait un acte héroïque ou qui s'était distingué pendant l'année. Bon, on peut sourire de tout cela, c'est quand même la méritocratie française qui a aussi sa noblesse. Petit à petit, c'est devenu le rendez-vous des VIP et des people. À l'instar, d'ailleurs.
Les vieilles gloires de la presse qui venaient, un grand numéro de l'Eschbode classique.
Vieilles ou récentes, de la presse ou d'ailleurs. Mais en tout cas, ça n'était plus du tout la même chose. Ouais. Et c'est vrai que, bon, la suppression de cela, probablement, ne fera pas pleurer les Français. En même temps, c'était bien, justement, à l'image de ce qu'est devenu les élites, de ce que sont devenues les élites françaises ou la façon dont elles projettent l'image du pays.
Jérôme Fourquet.
Alors, effectivement, c'est un symbole, mais si c'est le premier étage d'une fusée annonçant d'autres mesures, ça peut éventuellement être bien interprété par l'opinion. Et en tout cas, ça évite au gouvernement de se faire taper sur les doigts le 14 juillet quand les gens le rappelleront que, pendant qu'ils boivent du champagne, le taux de chômage augmente. Reprenons les discours du président de la République en campagne. Une République exemplaire avec un gouvernement ramassé autour de 15 ministres, des cabinets ministériels limités à 20 personnes. Là, ça pourrait être le second étage de la fusée. Et là, ça pourrait commencer à ressembler à quelque chose aux yeux des Français, je pense.
Ouais, surtout qu'on s'est rendu compte pendant le Mondial qu'il y avait deux ministres des Sports, par exemple. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Alors oui, il faut faire des économies. Il y a urgence, c'est pas moi qui le dis, c'est Didier Migaud, c'est le premier président de la Cour des comptes, qui constate, la crise, les mesures de relance, c'est sûr, tout ça, explique une partie du déficit global, mais il n'y a pas que ça, il y a un relâchement de la maîtrise des dépenses publiques. Voilà, il faut résorber absolument les déficits. Didier Migaud.
La Cour considère que les hypothèses du gouvernement peuvent apparaître optimistes et qu'il faut pouvoir se prévenir justement de ce que ces hypothèses optimistes ne se réalisent pas. D'où un effort vraisemblablement supplémentaire tant sur la dépense, puis également agir sur la recette. C'est tout le travail qui doit être fait sur les niches fiscales et sociales. Et remettre en cause des niches fiscales et sociales, c'est mécaniquement augmenter le produit de l'impôt, mais c'est nécessaire.
Voilà, donc Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes. Est-ce qu'on fait assez, justement, pour lutter contre ce déficit complètement hallucinant, François Langlais ? Est-ce que la rigueur va arriver en France ? Vous aviez lu l'interview de Claude Guéant dans le FT en début de semaine.
Oui, il annonçait des coupes substantielles et supplémentaires justement pour rejoindre l'horizon de stabilité qui est défini par le gouvernement. Je note quand même que Didier Migaud, il est évidemment dans son rôle en tant que premier président de la Cour des comptes, mais qu'il n'y a pas si longtemps, lorsqu'il était président de la Commission des finances, il disait radicalement l'inverse. On ne dépensait pas assez, notamment pour la relance. Encore une fois, il est normal que le président de la Cour des comptes s'alarme de la dérive des comptes publics, mais il faut aussi balancer les choses. On est dans une période où au plan économique, c'est très incertain. Il y a un débat sur justement rigueur ou relance, ou poser le curseur. C'est un débat qui a lieu en Europe, mais aussi aux États-Unis. Bon, pas de la même façon. D'ailleurs, il y a une espèce de désaccord, comme en a témoigné le G20 de ce week-end. Bon, il s'agit pas, là aussi de pas faire n'importe quoi et pas trop vite. L'essentiel, c'est la trajectoire. C'est-à-dire qu'il faut se fixer un cap, peut-être de moyen terme, et le respecter chaque année après année, plus que dans l'ampleur des coupes en année immédiatement.
Alors, vous savez quoi ? On va écouter David Dauba pour les infos de la nuit. On y reviendra juste après, notamment avec Olivier Lecomte, qui est quand même professeur de finance à Centrale Paris. On a envie de l'entendre. Et puis, évidemment, le gros dossier des retraites, manifestation. Donc, c'était jeudi avec beaucoup de monde dans les rues. Très bonne matinée sur BFM Radio. À tout de suite.
BFM Weekend.
Anne en est persuadée, la promo du jour chez Carrefour Market, c'est du flan. Et elle a raison, c'est même un délicieux flan à partager.
Aujourd'hui, le flan 6 à 8 parts est à 3,50€ chez Carrefour Market. Et ça, c'est pas une blague.
Carrefour Market, le positif est de retour.
Offre valable au rayon pain-pâtisserie dans les magasins participants. Flan 6-8 parts, fabriqué en France, 950 grammes, 3,50€ la pièce, soit 3,68€ le kilo. Pour votre santé, bougez plus.
Paris sportif en ligne, mode d'emploi, aux éditions RMC Sport, devenez un pro du pari. Préface de Luis Fernandez, 6,90€ seulement, en librairie et chez votre marchand de journaux.
BFM Radio, 8h30. Les infos, David Doba.
Les dirigeants des pays les plus industrialisés se sont retrouvés dès hier au Canada à l'occasion d'un G8 préliminaire du G20 qui doit se dérouler à partir de ce soir sous très haute surveillance à Toronto. Des dirigeants qui ont fait preuve de compréhension mutuelle sans controverse lors de leur première discussion sur l'économie mondiale. C'est du moins ce qu'affirmait hier soir Angela Merkel. A noté que les projets de taxes bancaires ou de contributions sur les transactions financières seront abordés ce soir et demain. Justement, tiens, cette question de taxes bancaires, on y revient dans quelques instants dans Good Morning Weekend avec Fabrice Lundi. En attendant, eh bien, Barack Obama pour sa part a d'emblée mis la pression sur les Européens. Il les conjure d'agir de concert pour éviter une nouvelle crise économique et ce alors que les chiffres de la croissance américaine au premier trimestre ont été revus à la baisse. L'affaire Bettencourt n'en finit plus de faire couler de l'encre. Hier, le procureur de la République de Nanterre, Philippe Courroy, avait révélé que l'administration fiscale avait été prévenue le 9 janvier 2009 du fait que ce dossier était susceptible de mettre en évidence des éléments de fraude fiscale. Quelques heures plus tard, Eric Woerth annonçait avoir lui-même autorisé également en 2009 un contrôle fiscal de l'artiste François-Marie Bagné. Eric Woerth qui n'aurait par ailleurs pas donné d'ordre pour s'opposer à un éventuel contrôle à l'encontre de la milliardaire. François Fillon a confirmé hier le cap de sa réforme des retraites. Le Premier ministre a pris la parole après la journée de mobilisation qui a rassemblé plusieurs centaines de milliers de personnes jeudi. François Fillon a notamment annoncé qu'il ne transigerait pas sur l'âge légal de départ à la retraite, autrement dit les fameux 62 ans, 67 pour une retraite à taux plein. Et puis toujours selon lui, bien le système devrait être équilibré en 2018. Par ailleurs, le chef du gouvernement a également annoncé que de nouvelles mesures pourraient prochainement être prises. Christine Lagarde a souhaité que les tarifs du gaz, qui doivent augmenter de 2% à 4,7% au 1er juillet, restent inchangés et ce jusqu'à la fin de l'année. L'offre de reprise du groupe Le Monde par le trio d'hommes d'affaires Berger, Niel, Pigas a été plébiscitée hier par les salariés, notamment par la société des rédacteurs du Monde. Ils se sont prononcés à plus de 90% en faveur de cette proposition. Ils avaient promis de dire la vérité, rien que la vérité et uniquement la vérité. Le discours a finalement été extrêmement polissé. Patrice Evra, Thierry Henry et Éric Abidal ont pris la parole hier sur TF1 et Canal+. Résultat, eh bien, tout allait bien dans l'équipe de France et tous les joueurs sans exception ont été d'accord pour faire la grève en soutien au renvoi de Nicolas Anelka. Enfin, tous sont également conscients de la chance qu'ils ont de porter le maillot tricolore sur les épaules. Alors, sur le terrain cette fois-ci, début aujourd'hui des huitièmes de finale avec parmi les matchs du jour, États-Unis-Ghana ou encore Uruguay-Corée du Nord. Je rappelle les tout derniers qualifiés hier, l'Espagne, le Portugal ou encore le Chili. BFM Radio, il est 8h33. On jette à présent un coup d'œil sur les unes de la presse de ce samedi. Une presse qui revient sur la réforme des retraites à l'image du Figaro qui affirme que Fillon prépare les Français à de nouveaux efforts. Mais une presse qui s'intéresse également à l'affaire Bettencourt à l'image du Parisien aujourd'hui en France ou encore et toujours du Figaro qui souligne que désormais, eh bien, les soupçons planent sur l'héritière de L'Oréal. Des soupçons qui sont de plus en plus lourds. Patrice Demestre, le gestionnaire de fortune, a d'ailleurs confirmé l'existence de deux comptes cachés en Suisse. Et puis, le Parisien revient également, je vous le disais à l'instant, sur les Français qui prennent la parole, des Bleus qui parlent pour ne rien dire, titre le journal. Plusieurs joueurs interrogés depuis leur retour du Mondial affirment la main sur le cœur que tout s'est bien passé au sein de la sélection. En revanche, eh bien, le sondage toujours du Parisien aujourd'hui en France montre désormais que le public souhaite que tout change dans le football français. BFM Radio, il est 8h34. Et on s'intéresse à présent à la météo avec Karine Elbaz.
Tous à vos lunettes et vos shorts pour débuter ce week-end. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, vous tomberez forcément sur le soleil. Les températures au réveil sont agréables. Ce matin, on enregistre 10 à Caen, 14 à Clermont-Ferrand, 15 à Lille ainsi qu'à Strasbourg, 16 à Cannes ou alors à Lyon, 17 pour Paris et 18 pour les habitants de Nice. Attention cet après-midi aux nuages qui devraient se former sur les Alpes du Sud et les Pyrénées. Ils pourraient donner lieu à des averses ainsi qu'à des orages localisés, surtout à la frontière espagnole. Partout ailleurs, vous continuerez de profiter de ce magnifique ciel dégagé. N'oubliez pas non plus de vous hydrater et de vous protéger, surtout si vous êtes en bord de mer. Les températures de cet après-midi seront estivales avec 24 à Nice, 25 à Marseille. Il fera 29 à Tours ainsi qu'à Grenoble, 30 à Lyon et Paris et 33 à Toulouse.
Bonne matinée, bon week-end sur BFM Radio, la radio L'Écho. Il est 8h35 jusqu'à 10h. Vous êtes toujours avec Fabrice Lundy pour la suite de Good Morning Weekend.
Good Morning Weekend. La double page info du week-end, Fabrice Lundy sur BFM Radio.
Voilà, c'est reparti, on écoutait David Daubin, les infos de la nuit, et nous nous retrouvons dans ce studio de Good Morning Weekend sur BFM Radio, toujours avec Olivier Lecomte, professeur de finance à Centrale Paris, avec Jérôme Fourquet, le directeur adjoint du département opinion publique de l'IFOP, et puis François Langlais, rédacteur en chef de la Tribune. Alors donc, Didier Migaud, qu'on a entendu il y a 5 minutes, hein, s'alarmait justement eh bien, du trou qui se creuse hein, dans les comptes publics. Il y a urgence à résorber les déficits. Olivier Lecomte, fait-on assez ?
Ce qui est embêtant, c'est qu'en fait, on est obligé de gérer deux situations concomitantes, qui est la réforme des retraites, parce qu'on l'a pas fait suffisamment tôt, contrairement à beaucoup de nos voisins, et puis c'est cette situation de déficit qui est, pour le coup, pas singulièrement, enfin, singulière à la France, mais qui se retrouve partout ailleurs. Mais nous, on a quand même deux gros morceaux à gérer en même temps, et c'est vrai que c'est quand même particulièrement douloureux. Cela dit, malheureusement, on a guère le choix. Et pour rebondir sur ce que disait François tout à l'heure à propos de l'évolution de langage de Didier Migaud, hein, qui est devenu plus raisonnable maintenant qu'il est à la Cour des comptes, clairement, son successeur à la Commission des finances, lui, a encore du chemin à faire parce qu'il a repris exactement le même discours. Jérôme Cahuzac a dit que tout ça, c'était d'abord des mesures qui étaient dictées par l'Allemagne. On se croyait dans les années 30 et je ne comprends pas pourquoi il n'a pas dit les Boches pendant qu'il y était. Pour moi, c'est parfaitement odieux de dire ça. Et deuxièmement, je trouve extrêmement irresponsable, justement, de laisser croire, en plus dans une position d'autorité qui est celle du président de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale, que on a véritablement le choix. Non, on n'a pas franchement de choix aujourd'hui, ne serait-ce que parce que le reste du monde autour de nous s'organise justement pour réduire ses déficits et réduire sa dette. On n'est plus, oui, tous ces gens-là, je pense, sont restés au temps de Louis XIV, où quand les créanciers se faisaient un peu trop exigeants, on en envoyait quelques-uns à la Bastille, où on en pendait un, deux ou trois, et puis ça le permettait aux autres d'attendre. Mais ça va être difficile de le faire aujourd'hui. Bon, ça c'est un premier point. Et deuxièmement, alors, le deuxième élément, c'est malheureusement depuis qu'il est arrivé, Nicolas Sarkozy a été à contre-temps. C'est-à-dire qu'il a baissé les impôts. Alors, vous pouvez me dire, il n'a pas vu venir la crise. Certes, mais enfin, par exemple, la baisse de la TVA sur la restauration, pour le coup, la crise était déjà là, et malgré tout, il l'a fait. C'est-à-dire qu'il y a une obstination à rester dans un programme, alors que même partout, je veux dire, même les gouvernements libéraux de droite, partout, ont aussi admis qu'il fallait changer de politique.
Oui, alors ce qui nous amène justement à ce sujet sur les niches fiscales, on va peut-être raboter un petit peu plus. Hein. Du coup, bah oui, voilà, il y a une nécessité, une urgence, hein, qu'on décrivait il y a un instant. François Fillon, c'était vendredi matin, hein, qui nous disait, voilà, l'effort sur les niches pourrait être porté de 5 à 8 milliards et demi d'euros. François Langlais.
Oui, il faut rappeler que le coût total budgétaire des niches, c'est 75 milliards. Hein. Donc on est dans un ordre de grandeur qui est d'un peu plus du dixième, à supposer même qu'on prenne l'estimation haute, parce que jusqu'ici, c'est 5 milliards par an, donc c'est moins de 10%. D'autre part, alors même que, justement, on fait un peu le matamore en disant, vous allez voir ce que vous allez voir, on en crée sans arrêt. Hein, mais c'est, si vous voulez, chaque budget est un camping de niche nouveau où on trouve des incitations pour la croissance verte, la baisse de la TVA pour la restauration et autres joyeusetés. Baisse de la TVA pour la restauration qui coûte quand même 3 milliards en année pleine à elle seule. Mmh. Alors que, si j'ai bien regardé, moi qui suis un consommateur de produits de bistrot relativement réguliers,
nous le
je n'ai pas vu que les prix aient changé de façon substantielle.
C'est donc, pas des emplois délocalisables.
On a jeté à la rivière 3 milliards d'euros. Donc tout ça pour dire que cet effort, il est bienvenu, mais qu'il est probablement encore relativement modeste à l'aune de l'ampleur, à l'aune des déficits et de la nécessité qu'il y a à redresser les comptes publics aujourd'hui.
Jérôme Fourquet.
Oui, et on voit une autre trace de cette volonté de coller un programme, c'est celle de, on peut en discuter, de réduire le nombre de fonctionnaires. On va avoir des batailles épiques, parce qu'à force de gratter, maintenant on va atteindre l'os, et on s'aperçoit aujourd'hui là, que 30 000 postes supprimés, c'est 1 milliard d'économisés, et dont 500 millions qui sont reversés en termes de salaires complémentaires pour les fonctionnaires qui restent. Et donc 30 000 fonctionnaires pour prendre un risque politique quand même important, parce qu'aujourd'hui ça va être des postes de policiers en banlieue qui vont manquer, des postes d'infirmières ou de maîtresses d'école, alors même qu'on a d'autres niches fiscales qui peuvent peser beaucoup plus lourd.
Olivier Lecomte.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur les fonctionnaires, parce que je pense qu'il y a encore d'énormes gains de productivité. C'est-à-dire que il y a un effort énorme d'amélioration du fonctionnement de l'administration, d'intégration des nouvelles technologies qui pourraient permettre à prestations égales de faire des économies substantielles. Et puis, ne nous leurrons pas, là aussi, la baisse du nombre de fonctionnaires, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a bien vu dans le rapport de la Cour des comptes, justement, du mois de décembre, le dernier de Philippe Séguin, que on a certes réduit le nombre de fonctionnaires des services centraux, mais que ça a été surcompensé par l'accroissement du nombre de fonctionnaires dans les collectivités territoriales. Donc, en 10 ans, on a créé 1 million de fonctionnaires supplémentaires. Donc, tout ça est un leurre. Et ce qui m'embête, c'est qu'une fois de plus, on va retomber dans la symbolique, c'est-à-dire, plutôt que de vraiment s'attaquer au fond des choses, on va proposer une mesure d'inscription dans la Constitution d'une règle d'équilibre budgétaire. Donc voilà, ça c'est facile, ça coûte rien. Et puis, il sera toujours facile en plus de dire ensuite, ah ces salauds de juges, ils nous ont censurés.
Oui, comme c'est classique. Oui, François Langlais.
C'est ce qu'on appelle la règle d'or, vous savez, qui est, en l'espèce est plutôt une règle plaqueur. C'est vrai que à la française, c'est un peu curieux.
Quand on gratte, il n'y a rien dessous.
Juste un mot sur. Enfin, c'est plutôt une question d'ailleurs. Vous vous souvenez qu'après la crise, on a dit c'est le retour de l'État.
Dans l'industrie, l'État dans les banques.
Et puis finalement, on voit que justement, à cause de la contrainte budgétaire, peut-être entre-t-on dans un monde où il y aura par nécessité moins d'État. Et peut-être que la crise, justement, au plan mécanique, va produire moins d'État, contrairement à ce qu'on anticipait.
François Langlais, vous avez regardé le plan de rigueur présenté cette semaine par David Cameron, par George Osborne, le nouveau gouvernement conservateur, plan de rigueur. Éliminer un déficit record hein, quand même en 5 ans, déficit de presque 190 milliards d'euros, plus de 10% du PIB. Alors, gouvernement qui met les moyens, réduction des dépenses, hein, du quart d'ailleurs pour chaque ministère. La reine n'est pas épargnée hein, avec ses dépenses, sa liste civile comme on dit. Augmentation du taux de TVA de 2,5%, on passe à 20%. Introduction d'une taxe sur le chiffre d'affaires des banques, l'impôt sur les plus-values qui va grimper. Puis en revanche, une baisse de l'impôt sur les sociétés. Hein, voilà, donc on augmente d'un côté, on baisse de l'autre.
Exactement ça qui me frappe, moi, si vous voulez, c'est que au plan fiscal, le Royaume-Uni a toujours été en avance. C'est-à-dire que c'est toujours le Royaume-Uni qui a initié les changements idéologiques en matière fiscale. Cette fois-ci, on voit apparaître la hausse de la TVA. C'est effectivement assez pratique hein, dans les périodes de disette budgétaire, parce que c'est un impôt qui semble ne pas être payé par grand monde, qui a un rendement très élevé. Un point de TVA, c'est considérable dans nos économies où la consommation est importante.
On va le rappeler, hein, c'est la première source d'imposition en France, hein, la première source de revenus, hein, Olivier Lecomte, hein, ouais, pour la TVA. Allez-y,
et puis, dans le même temps, on baisse la fiscalité sur les entreprises. Donc là, c'est assez malin au plan stratégique. Ça n'obère pas la compétitivité des entreprises. Et à l'inverse, c'est un peu comme une dévaluation. C'est-à-dire que vous frappez les importations, hein, les importations d'où qu'elles viennent, de l'Union européenne ou de la Chine, sans pour autant obérer lourdement la compétitivité du pays. Je pense que cette initiative va être regardée de très près par l'Europe continentale, qui, elle, est toujours en retard sur les mouvements initiés par la Grande-Bretagne, et qu'il n'y a pas un mille marins à ce que nous ayons aussi une hausse de la TVA chez nous.
Allez, Olivier Lecomte, commentaire, c'est un bon exemple, ce qui vient de Londres, ce plan présenté cette semaine.
C'est en tout cas ce qui est exemplaire, et alors là, on retombe dans le 18 juin, c'est à la bataille d'Angleterre, hein, les Anglais ont quand même une capacité, je crois, extraordinaire à faire face aux difficultés, justement, plutôt que de s'empoigner sur des symboles et choses comme ça, ils font, ils résistent. Bon, un tout petit mot quand même sur... Non, bon.
Si, allez-y, Olivier.
Un tout petit mot sur la taxation des banques, et non pas que je veuille défendre les banques, au contraire, je pense que ça vient à contre-temps, parce qu'aujourd'hui, on a un besoin de régulation, notamment d'accroissement des fonds propres des banques, et je pense qu'introduire cette taxe, ça va leur fournir un énorme argument pour dire « Non mais attendez, les gars, vous nous pressurez tout, donc finalement, il va falloir réduire vos exigences de régulation. » Je préférerais qu'on régule très fortement et qu'éventuellement on taxe après, mais on leur donne un très bon argument.
Alors, c'est parlons-en tout de suite, finalement, puisque ça sera au cœur du G20 de Toronto. Je voulais aborder ça d'ici 5-6 minutes après le dossier des retraites. C'est bien, Olivier Lecomte, vous lancez le sujet. Les banques françaises, pas forcément d'accord. Ariane Obolensky, c'est la directrice générale de la Fédération bancaire française.
Ce qui nous paraît surtout utile, c'est de ne pas empêcher les banques de continuer à financer l'économie. Il faut savoir que 1 milliard de fonds propres en moins pour les banques, ça veut dire 12 milliards de crédits en moins pour l'économie. Il vaut peut-être mieux renforcer les structures de l'industrie bancaire d'une manière ou d'une autre, mais je pense que pour l'instant, la bonne décision, c'est de ne pas prélever d'argent, quelle que soit l'utilisation.
Voilà, c'est Ariane Obolensky, la directrice générale de la Fédération bancaire française. Voilà, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit ce qui me paraît utile, c'est de ne pas empêcher les banques de financer les économies. Bon, alors cette taxe sur les banques, elle va être instituée ou pas, François
non,
Langlais ?
Non, j'y crois pas, parce que d'abord c'est une initiative européenne et on voit bien que justement au G20, on est face à des gens. Les pays émergents qui disent,
Brésil, écoutez, le Canada lui-même. Ouais.
Vous avez des tas de problèmes, mais cette crise, c'est une crise occidentale, et ça n'est pas une raison pour imposer la taxation du système bancaire mondial. Et ils nous disent, mais vous êtes un peu comme celui qui a brûlé un stop et qui voudrait changer les règles de la circulation. Commencez par apprendre le code. Et c'est pour ça que... Et alors, quand on poursuit le raisonnement jusqu'au bout, on voit bien que ça serait quand même très difficile que... ne soient taxées que les banques européennes dans un univers, la finance, qui est largement mondialisé.
Olivier Lecomte, professeur de finance à Centrale Paris.
François vient de le dire, ça a surtout, effectivement, pour l'instant, une vocation de communication, parce qu'il n'est pas du tout évident qu'on puisse le mettre effectivement en place. Et puis je reviens sur mon propos précédent, c'est que aujourd'hui, la pression, il faut la mettre vraiment sur la régulation, les nouvelles exigences, questionner d'ailleurs même l'utilité, ou en tout cas l'utilité sociale de certaines activités bancaires les plus risquées, et faire en sorte que finalement, on puisse pas dégager des profits démentiels sur des activités qui ont une utilité collective mince et puis en plus, qui font courir des risques systémiques non négligeables. Donc, je préférais qu'on pousse vraiment là-dessus que d'enclencher le débat sur la taxe. Surtout que les banquiers ont déjà sorti par avance là, en disant, vous vous rendez compte, la solvabilité, enfin les exigences supplémentaires, ça va détruire 10 millions d'emplois, etc. Mais bon, connais-le.
Voilà, en tout cas, le G20 de Toronto, on va suivre sur BFM Radio, dans les infos, chaque demi-heure, d'ailleurs dans 10 minutes, les infos de l'heure avec David Doba. Vous restez avec nous, on n'oublie pas aussi l'autre gros morceau de la semaine, ce sera dans quelques instants, la manifestation, la journée de mobilisation donc autour des retraites. À tout de suite sur BFM Radio, vos commentaires, BFM Radio. Radio.fr, à tout de suite.
BFM Weekend. Vous en avez sélectionné deux. Aujourd'hui, à midi, il n'en restera qu'un. BFM Academy 2010, la finale, Nicolas Douze.
Ne manquez pas la finale de BFM Academy. Elle verra s'opposer Christophe Bourbier avec l'e-monétique. C'est une solution de monétique pour le e-commerce. Comment payer en ligne avec autre chose qu'une carte bancaire? Et face à lui, François Leclerc avec iWazin, la marque exclusive de produits souvenirs chic et tendance, des produits créés, distribués et commercialisés par iWazin.
Rendez-vous aujourd'hui à midi sur BFM Radio pour connaître le dénouement de BFM Academy saison 5. BFM Academy 2010, la finale. Ils y croient. Mais croirez-vous en eux?
Johnny Wilkinson, joueur international de rugby, pouvez-vous nous parler du forfait SFR et des Mythics Pro Europe?
Eh bien, il me permet de téléphoner toujours au même prix où que je sois en Europe. C'est parfait pour moi qui joue à la fois à Toulon et à Londres.
Toujours le même prix?
Oui, le prix d'un appel français. C'est pour ça que j'ai choisi le forfait SFR et le Mythics Pro Europe.
Tix.
Fix.
Non, Tix.
Nouveau forfait SFR Limitix Pro Europe, le premier forfait européen. Appelé vert et depuis toute l'Europe au prix de la France. SFR Pro, faire équipe avec vous.
Offre soumise à condition, engagement de 12 mois minimum, appel inclus dans le forfait, hors visio, numéros spéciaux et services. Dans la limite des zones de couverture, liste des pays, conditions de l'offre sur sfr.fr/pro.
Partout en France, BFM Radio, la radio de l'écho. À Laval, 100.0.
Finalement, on n'est pas assez formé. Dès qu'on passe nos frontières, chaque cadre devrait avoir dans sa mallette un kit de communication sur la marque France. Pour ne pas se laisser empapaouter, si vous me permettez l'expression, par nos interlocuteurs qui, eux, connaissent parfaitement leurs produits et donc leur pays.
Découvrez toutes les fréquences de BFM Radio sur bfmradio.fr. À la maison, ou en voiture, en vacances, ou au bureau, partout en France, BFM Radio, toute l'écho, où vous voulez.
BFM Radio, Good Morning Weekend, Fabrice Lundy.
Voilà, Good Morning Weekend, toujours avec nous ce matin, Jérôme Fourquet, le directeur adjoint du département opinion publique de l'IFOP, Olivier Lecomte, professeur de finance à Centrale Paris, et puis François Langlais, rédacteur en chef de La Tribune. C'est toujours ce matin, eh bien, l'actualité de la semaine, commentée, revue sur BFM Radio par nos spécialistes. Je le disais, le gros morceau, évidemment, cette semaine, c'était jeudi après-midi, hein, plus forte mobilisation depuis le début de l'année, hein, autour de l'emploi, des retraites, bien entendu, hein, les retraites, voilà. Alors, selon les sources, toujours pareil, bon, alors, presque 2 millions de manifestants selon les syndicats, 800 000 selon les forces de l'ordre, selon la police. François Chérec, le numéro 1 de la CFDT, qui était dans le cortège parisien.
Le président de la République peut dormir tranquille. Il y a plusieurs millions de personnes dans la rue aujourd'hui. Il y a 10 millions de chômeurs. On a des problèmes du pouvoir d'achat. Et lui, il passe son temps à écouter les états d'âme d'un footballeur qui gagne 15 millions par an. S'il n'a pas d'autre chose que d'écouter des personnes qui ont mal représenté notre pays et de s'occuper des problèmes des gens qui sont dans la rue aujourd'hui, eh ben je crois que demain, on sera encore plus nombreux.
Voilà, allusion à ce qu'on disait évidemment il y a quoi, trois quarts d'heure à peu près pour démarrer cette heure. Hein, Nicolas Sarkozy, donc, qui recevait Thierry Henry un petit peu en catimini. Enfin, en catimini, c'était largement médiatisé, mais en tout cas, voilà, dans le secret de l'Élysée. Alors voilà, François Chérec, extrêmement satisfait, les syndicats convaincus d'avoir réussi leur démonstration de force. François Fillon, eh bien, leur a répondu, c'était donc vendredi matin, le lendemain, aucune mobilisation ne réglera le problème démographique. Et on sait que le gouvernement souhaite garder le cap d'une réforme juste. Tout de même, bon, voilà. Quelques aménagements, donc voilà, notamment sur les Français qui ont commencé à travailler avant 18 ans, qui ne seront pas obligés de partir à la retraite après 60 ans. Le Premier ministre François Fillon.
Le Parti Socialiste devrait se réjouir de la proposition que nous avons retenue d'étendre à tous ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans, c'est donc un dispositif plus généreux que celui qui existait dans la réforme de 2003, le système des carrières longues. Avec notre réforme, aucun Français ayant commencé à travailler avant 18 ans, ne sera obligé de partir à la retraite après 60 ans. C'est une avancée sociale.
Voilà le Premier ministre François Fillon. Alors, maintenant, François Langlais, quelle leçon tirer de cette journée de jeudi ? Voilà, la réforme, elle aura lieu malgré tout.
Oui, mais c'est pas si simple, hein. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on disait, on disait bon, voilà, il y a eu une phase de pédagogie, les Français connaissent bien les déficits, etc. Oui. Mais ils sont quand même descendus dans la rue. Pourquoi ? D'abord, évidemment, parce que les fonctionnaires étaient très nombreux. Mmh. Bon, ils vont être véritablement frappés. Mmh. Ça n'est que justice. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'on va les mettre à peu près au même niveau en termes de durée de cotisation, d'âge légal que les salariés du privé. Premier point. Deuxième point, on n'a pas pris le soin d'acheter la CFDT avant, contrairement à la plupart des réformes. Ça coûte cher. Ça coûte cher, c'est-à-dire que la CFDT se trouve dans une position d'opposant alors qu'en 2003, elle était aux côtés du gouvernement, en 1995, elle était aux côtés du gouvernement. Troisième élément, évidemment très important, c'est les affaires qui sont succédées au plan politique. Et c'est là où, si vous voulez, on se dit, oui, on me demande à moi de la rigueur et puis le gouvernement ne se l'applique pas. On a évoqué ces sujets-là.
Bien sûr.
Je note, d'ailleurs, que dans la réponse de François Fillon aux manifestants, le point clé, c'est le fait que les carrières longues vont pouvoir, c'est-à-dire les gens qui ont commencé à travailler tôt, avant 18 ans, vont pouvoir partir à la retraite, toujours à 60 ans. C'était un des points de fixation de la CFDT. Et c'est elle qui avait d'ailleurs été à l'origine du premier accord sur les carrières longues en 2003. Il s'agit manifestement d'une tentative de faire revenir à bord, si je puis dire, François Chérec et la CFDT.
Oui, alors Paris réussi, Paris gagné par les syndicats, Jérôme Fourquet. Bon, est-ce qu'il y aura un troisième tour social ? Bon, il va y avoir les grandes vacances, hein, juillet-août, tout le monde va se calmer, j'ai l'impression. Le projet de loi sera présenté, je crois, le 13 ou le 14, enfin le 13 juillet, parce que le 14, personne ne travaille. Projet de loi qui sera voté, discuté en tout cas à l'Assemblée nationale en septembre, octobre. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ?
Bah, écoutez, on peut penser qu'effectivement que les congés là vont faire descendre la pression, mais que c'est pas du tout impossible que les tensions repartent de plus belle à la rentrée. Il y a une attitude ambivalente de l'opinion publique. Hein, d'ailleurs, il y a eu des sondages à première vue un peu contradictoires là sur cette question. Ils sont conscients de la nécessité et de l'urgence de s'attaquer au problème. En même temps, la potion qu'on leur propose leur semble très très amère, et donc ils sont prêts à faire un effort. À deux conditions, si et seulement si, quand ils regardent autour d'eux, ils s'aperçoivent que tout le monde paye son écho, les parlementaires, les fonctionnaires, les plus hauts revenus, et donc là, en termes de balance, est-ce que le compte y est ? Et puis, la deuxième condition sine qua non, c'est que, allez, on vous lâche deux ans, mais nous ne redemandez pas, ne refaites pas le coup dans 5 ans. Et là, c'est tout le problème sur le financement et la viabilité de cette réforme. Mmh. Et là, il y a des vraies inquiétudes. Autant le gouvernement a marqué des points en termes de pédagogie sur la nécessité d'y aller, et on sait gré au gouvernement d'avoir pris le taureau par les cornes, autant sur la robustesse et la solidité du modèle proposé, là, il y a encore beaucoup de flou. Alors, ce qui peut, quelque part, un peu aider le gouvernement, c'est les postures de certains syndicats, type FO qui dit « c'est 60 ans ou rien ». Là, une majorité de Français n'y croit pas. Et puis également la position du Parti Socialiste, hein, qui, en la matière, n'a pas marqué des points, je pense. Hein, toutes les enquêtes montrent qu'une large majorité de Français pensent que si Martine Aubry ou un autre ténor socialiste gagne en 2012, pour eux, ils ne reviendront pas sur les 60 ans comme ils s'y engagent aujourd'hui. Donc, cette opinion, elle est un peu résignée et en colère, puisqu'elle se dit qu'il faut bien faire quelque chose, que ce qu'on lui propose, c'est quand même très, très dur et très douloureux, surtout quand on entend les affaires qui se déploient un peu partout, mais qu'en même temps, on n'a pas vraiment de scénario alternatif sur la table auquel se raccrocher.
Olivier Lecomte, c'est vrai, on aurait dû faire plus que 62 ans, frapper un grand coup, quitte à avoir des manifs finalement. Voilà.
Alors, je ne sais pas si c'est plus que 62 ans, mais en tout cas, on aurait dû faire plus, ouais. toute catégorie, ouais. J'allais dire, confondue, hein, enfin, tout moyen confondu, parce qu'on sait bien effectivement hein, qu'on n'a pas encore résolu toutes les impasses. On consomme par avance le fonds de garantie des retraites qui était censé intervenir en 2020. Alors, on me dirait, c'est encore. Bon, et je pense qu'en plus commence à naître vraiment une perception au sein de la population, je sais pas si les sondages le montrent, entre les jeunes générations qui ont le sentiment quand même qu'une fois de plus elles vont être sacrifiées, elles sont sacrifiées par la dette, elles sont sacrifiées par finalement des départs de gens en retraite qui vont bénéficier de conditions dont eux ne peuvent même pas rêver dans leurs fantasmes les plus fous. Donc oui, effectivement, on a une perception finalement, à la fois une résignation, mais en même temps la perception qu'il va falloir y repasser à nouveau. Ouais. Et avec en plus quand même le fait, comme je le disais précédemment, que et c'est pour ça que je ne suis pas sûr que la rentrée soit si simple que ça, qu'en même temps cet été, à tous les coups, on va devoir annoncer aussi des mesures de rigueur budgétaire cette fois-ci, voilà. En dehors des retraites.
Donc
ça va faire quand même des doses, des piqûres assez sévères pendant toutes les prochaines années.
Alors, juste pour rebondir deux points, effectivement, les jeunes générations très inquiètes, il y a un autre scénario qui se dessine, c'est que elles, dans les enquêtes, elles nous disent qu'elles commencent à épargner pour elles-mêmes. Donc l'idée de répartition transgénérationnelle aujourd'hui perd du terrain dans ces jeunes générations. Et puis effectivement, le télescopage des mesures de rigueur annoncées pendant l'été, rappelez-vous du tournant de la rigueur de Jacques Chirac qui lui avait pas porté chance juste après 95, avec cette réforme des retraites, eh bien à mon avis, en termes de symbole, on va pas pouvoir se contenter de la suppression de la garden party.
Voilà, on en parlait tout à l'heure, 700 000 euros simplement. Alors, c'est aussi un symbole aussi. Pour terminer, Le Monde, qui va reprendre le journal Le Monde? C'est vrai que Le Monde cherche un repreneur qui doit massivement recapitaliser le groupe, hein, très endetté. On parle du Monde, c'est vrai, le groupe Le Monde, c'est Le Monde, c'est Télérama, c'est Courrier International, etc. On a besoin entre 80 et 120 millions d'euros. Alors, il y avait deux candidats, hein, deux groupes exactement, hein. C'était un peu Pop contre BNP, hein. C'était d'un côté eh bien Perdriel, Orange et puis Prisa, le groupe de El País, hein, le groupe espagnol, face à BNP, Pierre Berger, Xavier Niel, Mathieu Pigas et la Société des rédacteurs du Monde. Finalement, c'est eux qui décident. Hein, finalement, vendredi matin, ils ont voté une très grande majorité, à la quasi-unanimité, pour le trio d'hommes d'affaires, donc Xavier Niel, Pierre Berger, Mathieu Pigas. François Langlais.
C'est un petit peu comme l'équipe de France. C'est une caricature française, ouais. Cette histoire. Ouais. C'est-à-dire, justement, un secteur qui peine à se réformer parce qu'il a été corseté par des lois sociales qui étaient destinées, après la guerre, à empêcher que les grandes fortunes du business s'intéressent de trop près à la presse. En réalité, justement, ça a tué tout capitalisme de presse en France. Pas tout, mais il y a quelques groupes indépendants, parmi lesquels d'ailleurs Next Radio qui possède BFM. Mais la réalité des choses, c'est quand même ça, c'est que c'est un secteur anémié, alors sur fond de crise mondiale, mais elle est plus aiguë en France. Et là aussi, on voit des interventions politiques à tout propos et hors de propos, puisque semble-t-il le président de la République s'est ému auprès du directeur de la rédaction
de Eric Fotorino, ouais. Voilà. Dans son bureau à l'Élysée, voilà.
Donc là aussi, on voit bien que on est au confluent.
En ostracisant notamment Xavier Niel, l'homme du Peep Show, parce que c'est vrai que Xavier Niel, avant de faire Free, Iliad, etc., avait une activité de Minitel Rose, etc., etc. Enfin bon, c'était très nombreuses années.
Gabriel, non, il l'avait pas, Gabriel.
Bon, Jérôme Fourquet de l'IFOP, oui. Alors la mainmise du pouvoir. Oui. Est-ce que vous pensez que les rédacteurs du Monde, justement, ont voté monter un petit peu en réaction.
Ouais, bah c'est pas impossible. En tout cas, on s'aperçoit que si cette réunion a eu lieu, si c'est vraiment ça qui s'est dit, apparemment le coup a été raté.
Ouais. En tout cas, bon, il y a encore le conseil de surveillance qui va se prononcer ce lundi. Olivier Lecomte, professeur de finance à Centrale.
Bah, quand on veut jouer le caïd pour imposer sa volonté sur des gens qu'on maîtrise pas vraiment, finalement, on produit exactement l'effet inverse. Voilà, c'est tout. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que on est face à un secteur qui est extrêmement malade. François a juste raison, vient de rappeler aussi que c'est en France, cette maladie est aggravée par des dispositifs qui datent de 1945 et qui entraînent des surcoûts extrêmement importants. Le vrai sujet, quand même, les questions que doivent se poser aujourd'hui nos démocraties, c'est comment va-t-on conserver, j'allais dire, une capacité d'investigation, de questionnement, de critique indépendante et en même temps qui tombe pas dans le populisme. C'est-à-dire, est-ce qu'on va continuer à avoir des gens capables de questionner les politiques gouvernementales sans pour autant tomber dans le caniveau.
Voilà, en tout cas, le mot caïd, hein, voilà, qui était peut-être le mot de l'heure. Hein. On avait démarré avec Roselyne Bachelot, ostracisant, montrant du doigt donc les bleus de l'équipe de France, sûrement à juste titre. Et puis donc, caïd qui est revenu dans la bouche de Olivier Lecomte, professeur de finance à Centrale Paris, à propos de cette affaire, de cette reprise du monde, et puis donc de toutes ces manœuvres politiques tout autour. Merci à vous trois, merci Olivier. Merci Jérôme Fourquet, directeur adjoint du département opinion publique de l'IFOP, et puis François Langlais, rédacteur en chef de la Tribune. Très bon week-end.